Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors, chers auditeurs, pour démarrer cette émission, je vous propose un retour en arrière, un voyage de mémoire qu'ont effectué des jeunes de plusieurs établissements scolaires à Bruxelles. Ils se sont rendus en France pour visiter la maison Lisieux et pour nous en parler. Alors, les élèves sont Anthony Beaujard, 19 ans, Firmin Mabeko, 18 ans, Casper et Ariane, qui sont de l'école allemande. Et les deux autres, vous êtes de quelle école ?
Edmond Peters.
Edmond Peters.
Très bien. Alors, un petit rappel. Lisieux est une commune du département de l'Ain, près du Haut-Rhône, à proximité de Lyon et de Chambéry. La maison Lisieux, ouverte par Sabine et Miron Zatine, accueille de mai 1943 à avril 1944 plus d'une centaine d'enfants juifs pour les soustraire aux persécutions antisémites. Et au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et 7 éducateurs qui s'y trouvent sont raflés et déportés sur ordre de Klaus Barbie. À l'exception de deux adolescents et de Miron Zlatin fusillés à Reval, Reval est aujourd'hui Tallinn, la capitale de l'Estonie, le groupe est déporté à Auschwitz. Seule une adulte en revient, Léa Fellblum, tous les autres sont gazés dès leur arrivée. Traqués et ramenés en France par Beat et Serge Klarsfeld, aidés de Fortune, Ben Guigui et Ita Rosa Allon-Brenner, mère d'enfants raflés à Lisieux, Klaus Barbie est présenté devant la justice française. Avec la mobilisation de nombreux témoins, il est jugé et condamné à Lyon en 1987 pour crime contre l'humanité. Ce procès ancre définitivement la rafle d'Lisieux dans le paysage mémorial français. Et au lendemain de ce procès, en mars 88, se constitue autour de Sabine Zlatin l'association du musée mémorial des enfants d'Lisieux. Le site est protégé et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1991 grâce à une souscription publique nationale. Inscrit au programme des grands travaux de la présidence de la République française, le mémorial de la maison d'Lisieux est inauguré le 24 avril 1994 par le président de l'époque, M. François Mitterrand. En 2015, la maison Lisieux change de dimension avec la création du bâtiment Sabine et Miron Zlatin, la refonte de son expo permanente et le développement de nouveaux dispositifs numériques. Cette extension est inaugurée, elle, le 6 avril 2015, cette fois par le président François Hollande. En 2022, la maison Lisieux inaugure un nouvel espace d'exposition, la galerie Zlatin, dédiée à l'expo de documents originaux ou collections temporaires. Un lieu de mémoire, d'éducation et de vie pour comprendre le crime contre l'humanité et agir contre toute forme de discrimination. La maison Lisieux est aujourd'hui un lieu d'accueil et d'éveil à la vigilance qui entend délivrer par le souvenir des enfants et des éducateurs de la colonie Lisieux un message universel et agir contre toute forme d'intolérance et de racisme. Alors je suis vraiment extrêmement ravie d'accueillir dans ce studio nos invités qui vont tout d'abord se présenter. Alors, honneur aux dames.
Moi, c'est Ariane. Du coup, j'ai 15 ans et je suis à l'école internationale allemande de Bruxelles.
Oui.
Bonjour à tous. Moi, c'est Firmin. J'ai 18 ans et je suis élève à Edmond Peters.
Oui.
Bonjour, moi, c'est Casper. J'ai 16 ans et je suis aussi à l'école internationale allemande de Bruxelles.
Bonjour, je m'appelle Anthony Beaujard. Je suis à l'école Edmond Peters, j'ai 19 ans.
Alors voilà pour la présentation. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté cette invitation et de venir parler de ce que vous avez vu et ce que vous avez ressenti en France. Donc,
merci à vous.
Avec plaisir.
Alors, première question. Comment a démarré ce projet ? Et qui en a pris l'initiative ? Qui veut répondre ? Vous pouvez tous répondre. Ou...
Bart Werth.
Ça commence. Bertrand. Bertrand Werth.
Oui, qui est Bertrand Werth ?
C'est l'organisateur du projet. C'est lui qui nous a amenés à Lisieux et qui a organisé le voyage.
Avec l'AMS.
L'association de la mémoire ?
Oui.
Ok.
Et du coup, ils ont contacté des professeurs de plusieurs écoles et ils nous ont demandé, je pense dans chaque école, c'était la sélection était un peu différente. Chez nous, à l'école allemande, c'était très...
C'est particulier, l'école allemande.
Voilà, c'est ça.
C'est lié à l'histoire de la Shoah.
Voilà, oui. Donc du coup, c'est ça. Et aussi, on n'a pas une très grande fraction francophone ou qui parle français à l'école. Du coup, c'était un peu...
C'était la priorité à ceux qui savaient parler français.
Et donc, du coup, on était un petit groupe de 7 personnes qui sont parties. Et je ne sais pas comment c'était dans les autres écoles, mais pour nous, c'était comme ça.
Mais ça n'a pas posé de problème à l'école allemande.
Non, pas spécialement.
Ça a été bien accueilli.
Oui, on était très bien accueillis. On est très heureux d'avoir participé.
Je voulais juste faire une petite remarque. C'est que, évidemment, vous n'êtes pas responsable. Vos parents ne sont pas responsables. Oui. Mais vous êtes responsable du regard que vous posez sur les événements aujourd'hui. Voilà.
Et c'est aussi pour ça qu'on trouve que c'est important qu'on participe à des projets comme ça. Et qu'on est très heureux d'être parti à Izieux et d'avoir participé à ce très beau projet.
Votre famille, vous en avez parlé dans votre famille
Oui, moi j'en ai parlé à ma famille. Et donc du coup, évidemment, mes arrière-grands-parents sont tous... Mes deux arrière-grands-pères sont morts dans la guerre, en combattu pour l'Allemagne nazie, contre leur choix, pour la plupart des gens. Et pour nous, les Allemands, c'est vraiment quelque chose qui est vu comme très mal et comme très... Et comme quelque chose dont on parle beaucoup, bien évidemment, pour pas que ça se reproduise, c'est pour que ce soit vraiment connu, pour qu'on sache l'histoire de notre pays, quand même, qui est une chose affreuse.
Il faut dire que l'Allemagne, aujourd'hui, fait complètement face à son histoire.
Voilà, c'est ça.
C'est un des seuls pays qui fait vraiment... Il n'y a rien à dire.
Mm-hmm. Oui, voilà,
ils prennent leurs responsabilités aujourd'hui, il y a des réparations financières, enfin, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Et vous, Ariane ?
Moi aussi, j'en ai aussi pas mal parlé dans ma famille. Et du coup, ma sœur, qui a un an de plus que moi, est aussi venue, a aussi participé au voyage. Et voilà, nos parents étaient très contents. Et
donc, il n'y a pas eu d'opposition familiale ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Alors, autre question, comment s'est opérée la sélection des élèves ? Était-ce sur base de volontariat ?
Oui.
Alors, chez nous, moi, personnellement, parce qu'on n'est pas dans la même classe... les profs nous ont proposé et il y a des élèves qui étaient volontaires et d'autres qui ne voulaient pas venir.
Nous, c'est le même principe qu'on nous a proposé par rapport aux différents secteurs dans notre école, vu qu'il y a 4 secteurs différents. On a sélectionné des bons éléments, surtout. Pour en parler, mais on a sélectionné des bons éléments et du coup, on est tous allés. C'était volontaire. On nous a demandé notre avis avant et on est tous partis avec plaisir.
Et chez vous, c'était pareil ?
Oui, donc du coup, notre prof de français à l'école, Anne Cardinet, qui est aussi ici, et là aussi, est venue plutôt précisément vers quelques élèves. Donc je pense qu'elle a demandé à peu près 10 personnes. Et donc c'était complètement volontaire aussi. À la fin, on était 7. Et on a fait ce voyage à 7. Du coup. Mais c'était volontairement. Et c'était,
Alors, je ne l'ai pas fait, mais je voulais remercier tous les professeurs qui vous accompagnent, qui sont ici, qui ne vont pas prendre la parole, et aussi l'ambassade d'Allemagne qui est présente par le biais de ses attachés de presse, je pense. Et on vous remercie d'avoir accepté cette invitation.
Et aussi les profs qui ont mis beaucoup, beaucoup d'heures de travail dans ce projet, pour préparer, ont pris des mois et des mois à préparer ce voyage avec Bertrand et avec l'association de la mémoire à la Shoah et Bella et Marcel de l'association de mémoire à la Shoah. Et donc, du coup, c'était un très grand travail. On est vraiment contents qu'il l'ait fait.
Très reconnaissant,
Très reconnaissant.
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la traduction de Shoah en hébreu, c'est anéantissement. Beaucoup de gens, c'est tellement dans le langage courant. Alors, question importante. Chers amis, que saviez-vous de la Shoah avant cette visite ?
C'était atroce. C'est une des choses les plus horribles qui s'est
passée. Donc vous avez entendu parler de...
Oui, c'est l'éradication complète d'un groupe de personnes. On tuait tout malade ou pas. On te tuait,
c'est le principe du génocide qu'il ne faut pas confondre avec des massacres, ce n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, mais c'est une chose horrible. C'est des gens, des familles, des proches, peut-être à nous, on ne sait même pas, qui sont morts dans ces camps et dans plein de situations différentes qui sont horribles et qui peuvent affecter pas mal, qui ont affecté pas mal de gens, surtout.
Et vous ? Est-ce que vous saviez
Moi, personnellement, en janvier, ça fait quand même 3 ans que je suis sur un travail de mémoire. Mm-hmm. En janvier, je suis partie à Auschwitz et j'ai visité le camp. J'ai visité aussi Birkenau.
Birkenau, oui.
Oui. Et j'ai pas mal fait de choses en rapport avec ce qui s'est passé. J'ai aussi été au centre ACCJ. Mmh. Voilà, où on a regardé un film qui parlait de la guerre. Puis je suis partie aussi voir un musée Plus Jamais Ça, qui s'est fait à Liège. Et voilà.
Oui, il y a d'ailleurs des films qui ont été faits à propos des enfants. Au revoir les enfants, par exemple, ce film. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un réalisateur français très connu. On voit une classe. Et tout à coup, les enfants juifs sont sélectionnés et se séparent de leurs amis non-juifs et on dit au revoir les enfants et on sait ce qui va leur arriver, ils vont être gazés. Alors, vous, Casper,
oui.
L'école allemande, que saviez-vous de la Shoah avant cette visite ?
La Shoah, c'est déjà à l'école, quelque chose qui est dans lequel on apprend beaucoup de choses, on en parle beaucoup.
Dans les programmes de l'école depuis le plus jeune âge,
on en a parlé, on en a discuté, on a appris sur la Shoah, on l'a traité en classe et on a eu des discussions, on a vu des films, on a vu des documentaires, on a fait des visites, on a été à la caserne d'Ossin cette année par exemple à Mechelen.
Ah oui.
Et donc on a fait beaucoup de projets en rapport avec ça et donc c'est vraiment ne serait-ce qu'à l'école quelque chose qui est beaucoup traité et aussi dans la famille bien sûr. Alors, en étant allemand, c'est important pour beaucoup de nos parents qu'on sache ce qui s'est passé. Donc moi j'en ai beaucoup parlé dans ma famille et j'en ai beaucoup entendu parler autour de moi avec mes parents, avec mes grands-parents. Et donc oui, donc je savais ce qui était la Shoah, mais je pense que oui, je savais très bien ce qui était la Shoah. J'en ai beaucoup déjà entendu parler de cette atrocité, mais je pense que ce voyage nous a encore plus ouvert l'esprit, en tout cas, nous en compte plus.
Vous avez
montré.
Rencontré des survivants déjà dans votre survivants à la Shoah.
Il y a eu un événement où
comme Simon Gronowski ou il y a encore quelques survivants qui ont le numéro sur le bras. Je ne sais pas. Vous pouvez répondre. Le micro est ouvert. Donc.
Alors, c'était pas un survivant, mais c'était un enfant de personnes déportées.
Ah oui, oui.
Oui, ouais. Mais j'ai oublié son nom. Mais, mais oui, j'ai eu l'occasion de le voir 2 fois, cette année et l'année passée.
Il y a Alberto Israel aussi qui accompagne encore des gens qui vont à Auschwitz. Mmh. Il a, je ne sais pas, près de 100 ans, mais il vient quand même encore faire cet effort d'accompagner des groupes qui visitent Auschwitz. Donc, et vous avez eu l'occasion de rencontrer ou de parler avec des survivants, parce que c'est ça, non ?
L'école a organisé par contre un événement chez l'ambassadeur où on a pu rencontrer des enfants cachés du coup mais sinon les survivants pas vraiment non.
Oui, son excellence monsieur Martin Kotos et j'en profite pour le saluer parce que c'est un ami de la communauté juive et nous sommes sensibles à ça. Alors il y a certainement un avant et un après cette visite à la maison d'Isieux. Ce voyage vous a-t-il donné envie, par exemple, de visiter d'autres lieux liés à l'histoire de la Shoah, comme par exemple Auschwitz-Birkenau ? Bon, Firmin, je sais que vous avez déjà été à Auschwitz. Est-ce que vous avez envie ou bien vous vous dites « Bon, c'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé, c'est fini.
Personnellement, oui, même si j'ai déjà visité Auschwitz, mais je ne l'ai pas précisé quand j'étais très jeune, à l'âge de 6 ans, avec mes parents. C'était choquant à mon âge, c'était très choquant. Beaucoup. J'ai discuté avec Marcel de ça. Et il m'a dit que c'était un
c'est
très
Marcel
jeune.
Zalk, hein.
Marcel Zalk. Et il m'a dit que c'était très jeune quand même. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé ma vision des choses par rapport à ce qui s'est passé et ce qui peut se passer dans l'avenir si ça recommence. On n'espère vraiment pas, tous, et personnellement moi aussi, mais c'est un endroit qui est choquant, surtout quand tu vois le nombre de bagages, de vêtements.
Et ah oui, les piles de lunettes,
les gens
de
allaient là-bas.
Et de cheveux aussi.
Et de cheveux. Hein.
Et ouais. Les gens allaient là-bas en pensant aller en voyage ou je sais pas, avec leur famille.
Oui, ou prendre une douche.
Oui, prendre une douche, mais la réalité était telle que non. On ne parle même pas des expériences allemandes qu'ils ont faites sur les enfants. Sur,
oui, avec le docteur Mengele qui faisait des expérimentations.
Sur les maladies, surtout, c'est vraiment horrible.
Pourtant,
et choquant.
Tous ces gens étaient, font partie aussi du genre humain, du groupe humain.
Il y en a, ils étaient certes juifs, mais il y en a, c'était des juifs allemands. Ils tuaient vraiment sans aucune honte et sans aucune restriction, en fait.
Oui, oui, oui. Ma mère est une juive allemande. Elle est née à Nuremberg, donc voilà. Et mes grands-parents maternels ont été dénoncés par leurs propriétaires. Ils habitaient rue Villain 14, près des étangs d'Ixelles. Et ils sont partis par le 20e convoi, qui est le seul convoi de toute l'histoire de la Shoah qui a été arrêté par trois jeunes résistants. Mais bon, ils n'ont pas réussi à sauter. Donc, ils sont partis à Auschwitz et c'était un aller sans retour. Vous voyez, je suis encore émue. Et pourtant, je suis née après la guerre. Mais voilà, il y a un traumatisme qui se transmet. C'est comme ça. Alors, que voulais-je encore vous demander? Oui, cela a probablement changé votre ressenti ou votre regard sur cette page de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Est-ce que tout ça pourrait revenir? Nous sommes en 2023. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais bon, chacun, vous êtes beaucoup plus jeune.
Personnellement, il y a eu déjà beaucoup de choses qui sont passées, même après la Seconde Guerre mondiale. Le Rwanda, par exemple.
Bien sûr, il y a sans le Cambodge, le Cambodge, le Rwanda.
Sans citer tout, il y en a beaucoup d'atrocités qui sont passées, et même maintenant, ce qui se passe en Ukraine.
Exactement.
Avec Vladimir Poutine et Zelensky. Ça a touché des familles, ça m'a touché personnellement. J'ai perdu un proche dans cette histoire, au niveau de l'Ukraine. Mais c'est triste de voir que l'humain est capable de continuer ses bêtises.
En
et
fait,
ne voit
retient
pas.
Rien de lui.
Il ne retient rien
de
tout.
L'histoire.
Mais on retient, en fait, mais on continue. C'est ça qui est horrible, c'est qu'on sait le mal qu'on fait, mais on le fait quand même. Voilà. Pour moi, l'humain est fondamentalement mauvais dans ce qu'il fait, mais peut faire le bien. Et c'est ça qu'on doit retenir, c'est que il ne faut pas répéter l'histoire. C'est pour ça qu'on le dit à des jeunes enfants de 12-13 ans, on essaie de transmettre cette mémoire. Et il n'y a pas beaucoup de survivants encore. C'est pour ça qu'on essaie de transmettre ce savoir à des gens comme nous, des jeunes, qui peuvent le retransmettre plus tard à d'autres jeunes, et pour que l'histoire ne se répète pas, surtout à cette échelle-là, qui était vraiment abusée.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire
oui.
Anthony, vous allez en parler autour de vous, à vos amis. Tu sais, j'ai été voir ça.
C'est important.
Personnellement, j'en ai parlé avec mes parents dès un jeune âge, parce que je suis d'origine polonaise.
Ah, vous aussi?
Je suis d'origine polonaise,
moi
c'est
aussi.
Pour ça. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup facile à parler avec Marcel
Zalk
et Bella Zalk. Et j'ai eu beaucoup, en fait, je me sens attaché un peu parce que j'ai des proches, probablement que je n'ai même pas pu connaître, qui sont morts dans cette histoire, qui est dans cette tragédie. Et du coup, ça me rend assez triste parce que. Mais ça se trouve, j'aurais pu avoir des grands-grands-grands-parents, mais je ne les ai pas, parce qu'ils sont morts dans cette atrocité. Mais ouais, ça fait mal au fond, parce que tu te dis que tu aurais peut-être pu connaître des gens. Et surtout quand tu vois des survivants ou des rescapés, tu vois leur sourire, et même après tout ce qu'ils ont vécu, ça donne envie de continuer de vivre et ça redonne espoir.
Ben oui, il faut continuer à réagir et à lutter contre la discrimination, le racisme et l'antisémitisme. Je fais pas de différence.
Surtout, c'est choquant de voir qu'il y a encore des gens qui continuent ces bêtises comme...
Ils sont il y a la manipulation et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un très mauvais rôle, un rôle d'accélérateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que vous êtes de l'ère des réseaux sociaux.
Oui, on est beaucoup dedans, mais on ressent qu'il y a quand même... ça s'est calmé avec le temps, mais on sent quand même qu'il y a une certaine haine encore, vu qu'il y a encore des partis nazis, en fait, même encore aujourd'hui. Il y a des gens qui continuent leur bêtises et qui sont un peu fiers et qui s'affichent sur les réseaux, justement. Et il y a même des groupes qui s'organisent.
Mais je crois qu'il y a une grande frustration aujourd'hui parmi les gens, et voilà.
Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment deux côtés. Bien sûr, il y a encore ces groupes nazis, mais il y a encore beaucoup de gens qui résistent et qui utilisent vraiment les réseaux sociaux.
C'est
comme...
magnifique et c'est horrible.
Voilà, c'est ça. C'est magnifique et c'est horrible à la fois. Donc, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, et c'est ce qui est très beau, qui utilisent les réseaux sociaux comme résistance, comme on peut voir par exemple en Iran. Avec les réseaux sociaux, ils jouent un grand rôle dans ces affaires. Et je pense que les réseaux sociaux, ça pourrait être... la raison que ça recommence, mais ça peut aussi être la raison que ça ne recommence pas. Donc je pense vraiment qu'il y a deux côtés et qu'il faut savoir ce qu'on lit, il faut savoir ce qu'on regarde, et tout le monde doit être prudent sur les réseaux sociaux.
Alors pour terminer, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des camarades qui vous tiendraient des propos antisémites, racistes? Qu'est-ce que vous leur diriez pour essayer d'arrêter?
De s'informer sur ce qui est passé justement. Ce qui s'est passé justement à la Shoah et pendant tout ce temps, et de réfléchir et de ne pas dire des choses dont ils ne sont pas forcément au courant, où ils ne savent pas forcément ce qu'ils disent.
Parce qu'aujourd'hui, on importe aussi le conflit israélo-palestinien pour alimenter l'antisémitisme. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, ce sont deux choses différentes. Il y a des gens qui disent « Oh, j'adore les Juifs, mais je déteste Israël. » Je veux dire, bon, voilà. Et qui n'ont jamais mis un pied de toute leur vie en Israël et qui professent...
Qui ne s'informent pas et qui disent des atrocités, des choses horribles.
Ils répètent des choses qu'ils ont entendues. Donc, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des camarades, à la famille, je ne sais pas.
Donc, moi, je dirais que de ne pas oublier qu'on est tous des humains. On commence tous sur les mêmes bases. Et donc, on a tous les mêmes moyens pour s'informer. On a tous la plupart du monde a accès à Internet, a accès à des informations. Et comme Ariane l'a dit, donc si on n'est pas informé et qu'on lance des propos, des sujets antisémites, racistes, homophobes, misogyniques dans des conversations, alors qu'on n'a pas vraiment
tous les éléments
et toutes les informations, et qu'on a des manières de penser bizarres qui sont peut-être supportées par des influences de la famille ou des réseaux sociaux, sans vraiment se faire un propre opinion, c'est vraiment c'est mal. Enfin, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Enfin, on peut avoir une opinion bien sûr, mais si on n'est pas informé, si on se forme pas, on peut discuter, on peut pas, il y a aucune raison de ne pas
seulement répéter ce qu'on a entendu de différentes personnes. Faut se faire son propre avis.
Il y a aucune raison de bâcher des groupes de gens juste pour leur religion, pour leur ethnicité, pour leur
ou véhiculer des clichés. Et,
voilà,
comme
c'est ça.
Les Juifs sont riches. On l'a dit longtemps.
Ou alors
une
ils sont moi.
Que j'adorais me dit les Juifs sont riches. Je dis, mais Irène, pas tous, mais il y a quand même Rothschild. Je dis, mais c'est pas moi, je ne fais pas partie de ce groupe. C'est véhiculé. Bon, il y avait l'antisémitisme véhiculé par la religion.
Et donc, du coup, avec les clichés et les préjugés, on a fait un workshop à la maison d'Izieux avec une dame où on a parlé de ça. On nous a montré des photos. Par exemple, la première photo, c'était un monsieur qui tenait un lapin, qui lisait des livres. Et on n'avait pas de prénom, on ne savait pas qui c'était. Et on nous a demandé « qu'est-ce que vous direz sur cet homme ?» Et on a tous dit « oui, il a l'air d'être un homme gentil ». Et après, on nous a dit que cet homme est Adolf Eichmann, un des architectes de la Shoah
et de la
solution finale. Et donc du coup, voilà, les préjugés, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser ni pour des personnes, ni pour des religions, ni pour des groupes de personnes.
L'habit ne fait pas le moine.
Voilà, exactement. C'est exactement ça.
Et c'est le Mossad israélien qui a été le péché en Argentine.
Voilà, c'est ça, oui.
Il s'appelait Ricardo Clemente, c'était son nom. Et il a mal fini au bout d'une corde.
Ouais.
Bon, bref. Donc voilà. Si vous avez un dernier mot et on va clôturer.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.
De l'intérêt que vous portez à la communauté juive. Je remercie les professeurs. Je vous remercie l'ambassade d'Allemagne.
Et moi, je tiens à remercier aussi ma professeure, Madame Elbiet, parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai pu aller à Auschwitz. J'ai pu travailler sur ce devoir de mémoire. Et voilà, je tenais à la remercier.
Et aussi à Madame Cardinet et à Bertrand Werth et à tous les professeurs et à toutes les personnes derrière ce projet. Et merci à la Maison d'Isieux aussi de nous avoir accueillis. On est vraiment très contents d'avoir fait ce projet. Et je pense que ça nous a tous aidés, ça nous a tous ouvert notre esprit un peu sur cette tragédie.
Je suis très heureuse de vous avoir. Vous êtes des belles personnes.
Merci madame.
Merci beaucoup.
Et j'espère que vous aurez un bel avenir comme vous le souhaitez. Voilà. Merci à tous.
Merci.
Sachez que vous serez toujours le bienvenu sur le plateau de Radio Judaïka.
On serait très content de revenir.
Que l'émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19h et que vous pouvez la retrouver quand vous le désirez en podcast. Alors maintenant, je vais passer une chanson pour illustrer ça. Chanson de Jean Ferrat, qui était de son vrai nom, Tannenbaum. Ils étaient 20 et 100.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Voilà, c'était bien sûr Sarit Haddad. Alors, nous poursuivons cette émission découverte et je voudrais vous parler de la destruction du barrage Kakhovka en Ukraine. Israël a proposé son aide. Le ministère israélien des Affaires étrangères a donc pris contact dès hier soir avec les services ukrainiens pour proposer l'envoi d'une aide humanitaire. Dans un premier temps, le matériel sera livré par les Israéliens, les présidents du groupe d'amitié parlementaire Israël-Ukraine, les députés Yuli Edelstein et Zev Elkin ont publié un communiqué. Notre cœur est avec le peuple ukrainien qui a subi de lourdes pertes et dont les infrastructures civiles sont la proie d'attaques sauvages et inhumaines. Au-delà des conséquences désastreuses immédiates, la destruction du barrage peut avoir des effets à long terme sur la centrale électrique de Kherson. L'État d'Israël assistera l'Ukraine là où cela sera nécessaire. Fin de citation. Tout à fait historique, le président de la Knesset était en visite officielle au Maroc. Pour la première fois depuis l'indépendance de l'État d'Israël, un président de la Knesset est reçu officiellement au Maroc. Il a choisi de commencer son séjour en mettant les tfilines dans la synagogue où son père avait l'habitude de prier avant de faire son alia. Il a confié aux membres de la communauté sur place « C'est pour moi un grand mérite d'être ici et de m'asseoir sur la chaise où mon cher père s'est assis et a prié tous les jours en rêvant de rejoindre la terre d'Israël et Jérusalem. Je crois de tout mon cœur que les racines de notre attachement en tant que peuple et mon lien particulier à notre terre se trouvent entre les pages de ces livres de prières et ces cantiques qui traduisaient le désir de Sion. » Il a dit qu'il se sentait véritablement à la maison parce que cette synagogue lui rappelait celle de son enfance à Beersheba. Le président de la Knesset a également remercié le roi du Maroc, Mohamed VI, pour avoir pris soin de préserver ces lieux de culte, même plusieurs années après le départ des Juifs. Amir Ohana, le président de la Knesset, donc, doit rencontrer son homologue marocain et le président du groupe parlementaire d'amitié maroco-israélienne. Il doit signer un protocole établissant une relation interparlementaire entre Israël et le Maroc qui contribuera au renforcement des liens entre les deux pays. M. Ohana s'entretiendra aussi avec des membres du gouvernement et des responsables de la communauté juive locale.
עוד מעט כמעט, אנו גוף אחד, את ידך נתת בידי שלי לבד. את לי עד שאני פוחד, ולכן רועד כל גופי עליי. יום יום וליל כל הזמן בנתיב אחד, לא מסומן. יום יום וליל כל הזמן יחד ולבד, לך לעצמי את לאט נגלה מעט מי אני מי את, ואולי אולי נלמד לוותר ולתת יותר עד שתיוותר רק אהבתנו. יום יום וליל כל הזמן בנתיב אחד, לא מסומן. יום יום וליל כל הזמן יחד ולבד, לך לעצמי הטוב.
Sachez que plus de 40 000 personnes ont assisté à la parade de soutien à Israël à New York, aux États-Unis. Comme chaque année depuis 1964, avait donc lieu à New York la parade de soutien à Israël, une manifestation géante tout au long de la 5e avenue et qui a pour but de témoigner à Israël l'affection de nombreux Américains. Et dans le cortège se trouvaient quatre ministres israéliens, Galit Distel Atbarian, ministre de la Hasbara, Ophir Sofer, ministre de l'Alia et de l'Intégration, Amichai Shikli, ministre de la Diaspora, et Amichai Eliaou, ministre de l'Héritage juif. Le maire de Jérusalem, M. Moshe Leon, a également marché aux côtés de son homologue new-yorkais, Eric Adams. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, était à la tête d'un groupe d'ambassadeurs et diplomates aux Nations Unies venant des États-Unis, de Géorgie, du Guatemala, de Hongrie, de Lituanie, d'Ukraine, du Sud-Soudan, de la République tchèque, de la Moldavie, du Maroc, de l'Australie, de la Roumanie, de l'Érythrée, de la Guinée équatoriale, de Bulgarie, de la Guinée-Bissau et du Timor oriental. Finalement, ce sont plus de 40 000 personnes qui s'étaient réunies dans ce qu'est la plus grande manifestation de soutien à Israël au monde. Les protestataires contre le gouvernement israélien ont tout de même réussi à mobiliser plusieurs centaines de personnes sur place qui ont tenté de nuire au bon déroulement de la manifestation et en s'en prenant verbalement au ministre israélien présent. Finalement, la marche s'est déroulée dans une bonne ambiance.
כמו פרפר הייתי בידיה לחומי אבקש לי לתומי אך הנה אינה ובלעדיה אין עוד ריח פרח ליומי כמו יונה צחורה עם אור ראשון ניקיני אם הוריתי לקראתה אך אם לילה בלכתי לישון רוח בא ומסעה אותה אהבתה לא יותר מבכי שעבד לילה ליל ויום לא מעטה עד הדלת נסגרה לעד לא אגיף תריסי והיא תשוב לא אנעל דלתי עד אושר בא לב לי לב אוהב והוא קשוב לכל צעדים אשר אהבה
Sachez que les fameux pavés de la mémoire Stolperstein passent le cap des 100 000. Un peu moins de 30 ans après son lancement, un gigantesque projet pour rendre hommage aux victimes de la Shoah a donc franchi un nouveau cap. Il existe désormais plus de 100 000 pavés de la mémoire insérés dans le sol en Europe, rappelant le destin tragique des victimes du nazisme. Quand le sculpteur allemand Günther Demnig a démarré les Stolpersteine, littéralement « pierres sur lesquelles on trébuche » en 1996 en Allemagne, il ne s'attendait pas du tout à ce que trois décennies plus tard, ces pavés soient présents dans plus de 20 pays européens. Chacun de ces petits cubes de 10 cm de côté porte une plaque de laiton avec le nom d'une victime du Troisième Reich, sa date de naissance, celle de sa déportation ou de son exil, et si elle est connue, la date de son décès. Insérés dans le sol devant l'ancienne demeure de la victime, ces petits pavés dorés attirent le regard des passants et les incitent à lire l'inscription gravée. Vendredi dernier, M. Günther Demnig a donc installé le 100 000e Stolperstein à Nuremberg, une ville du sud de l'Allemagne, en Bavière, où furent adoptées les lois sur la protection du sang et de l'honneur allemand qui privaient de leurs droits les Juifs du pays. Mardi dernier, le sculpteur a rejoint l'ambassadrice américaine Hemi Guttmann dans la pittoresque cité de Feuchtwangen, non loin de Nuremberg, pour y insérer 8 pavés rendant hommage à ses parents, des Juifs allemands. En tant qu'ambassadrice américaine, fille de Kurt Guttmann, réfugié juif de Feuchtwangen, j'ai la sensation de boucler la boucle du traumatisme à l'hommage, a-t-elle dit. Encore étudiant en 1934, Kurt Guttmann a compris que lui et sa famille ne pouvaient rester dans son pays dirigé par Adolf Hitler. Il s'enfuit donc pour l'Inde, où ses parents et 5 autres proches le rejoignent pour échapper à la campagne d'extermination des nazis. Il s'est ensuite installé à New York, où Hemi Guttmann a vu le jour. Avec une grande lucidité pour un jeune homme de 23 ans, Kurt Guttmann, mon père, a tout de suite compris la folie dans laquelle sombrait sa patrie, a observé Hemi Guttmann, 73 ans aujourd'hui. C'était un héros, affirme-t-elle en retenant ses larmes. Ces dernières années, a-t-elle raconté, j'ai bien plus appris sur ce que ma famille a vécu sous l'Allemagne nazie que tout ce qu'ils ont pu me confier avant. Parmi les survivants de la Shoah, il règne souvent un mur du silence. Lors de la cérémonie à Feuchtwangen, où vivait depuis 800 ans une communauté juive, Hemi Guttmann a confié que les Stolperstein lui ont fait l'honneur d'apporter une touche finale à sa famille. En démarrant le projet des Stolperstein, M. Günther Demnig voulait faire prendre conscience à l'échelle humaine de l'horreur de la Shoah. Son projet contrastait avec le mémorial plus abstrait, inauguré en 2005 dans le centre de Berlin, pour perpétuer le souvenir des 6 millions de victimes juives exterminées par les nazis. Les Stolperstein sont enracinés dans le Talmud, texte fondamental du judaïsme, qui dit qu'une personne est seulement tombée dans l'oubli quand son nom est oublié. À l'origine du projet, il n'y a aucune raison de se réjouir, remarque Günther Demnig, mais quand je vois combien les gens se réjouissent de voir les noms de leurs parents inscrits là où ils ont vécu, je pense que beaucoup rentrent chez eux avec une image différente de l'Allemagne. De nombreux descendants de victimes du nazisme viennent de l'étranger pour insérer les pavés de la mémoire, ce qui coûte environ 130 euros pour couvrir les dépenses de Demnig et qui sont le plus souvent financées par des organisations locales. Les habitants des demeures où vivaient les victimes des nazis assistent fréquemment aux cérémonies d'inauguration et des collégiens font souvent des recherches en cours d'histoire sur le passé des personnes persécutées. Les Stolperstein se sont donc multipliés alors que la communauté juive en Allemagne s'est progressivement développée, comptant désormais plus de 200 000 personnes.
ובלילה תמיד איתך ורוצה לאהוב רק לך עד שבוקר יאיר אותך איתך ובלילה תמיד שלך ושומר על אהבתך את ליבי שם בתוך ליבך נרדם איתך כמה שנים לפנינו ביחד רק שזה לא ייגמר אני לא רוצה שתחי לי בפחד לפעמים זה שובר תני לי לחלום לדמיין שביחד נחיה שם עד סוף החיים בבית קטן בגינה ישחקו ילדים איתך ובלילה תמיד איתך ורוצה לאהוב רק לך עד שבוקר יאיר אותך איתך איתך אולי זו פנטזיה רומנטית אולי זה סתם סיפור שעובר אולי אהבה היא מילה ששייכת לעוד משורר גם אם אני נשמע לא אופטימי גם אם אני מהרהר רוצה שתדעי שעלייך אני לא מוותר איתך ובלילה תמיד איתך ורוצה לאהוב רק לך עד שבוקר יאיר אותך איתך, איתך ובלילה תמיד שלך ושומר על אהבתך את ליבי שם בתוך ליבך נרדם איתך את ליבי שם בתוך ליבך נרדם
zusammen an die gindel afreleches mit weltalach zu skramen die mame kocht a lokschen sup mit kasche in mit knedlach kinder jont ef pirim vel mir spielen sich in dreidla chiribim chiribom chiribim bom 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 chiribim chiribom chiribim bom 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 Chiri biri 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 bim bom bom Chiri biri 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 bim chiri bim bom 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 Schön wie die Levone, lichtig wie die Stern Von Himmel am Atone, bist du mir zugeschickt Mein Glück hab ihr gefunden, wenn ich hab dir gewinnen Du scheiß wie tausend Sinne Hast du mein Herz verglick Deine Zähnderlach weiß wie Perlach Mit deine schöne Augen Deine Händerlach, deine Herrlach Hast mich zugezeugen Schein wie die Levone Lichtig wie die Stern Von Himmel am Atone Hast du mir sie geschickt Mädel, Mädel Will bei dir fragen Wo's kein Wachs wachsen rein wo's kein brennen und nit aufhören wo's kein denken weinen und tränen tumbalalai 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 ka tumbalalai 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 ka spiel balalai ka spiel balalai ka spiel balalai ka freilich soll sein bei mir bist du schön Bei mir hast du heim, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Bei mir bist du gut, bei mir hast du Hit, bei mir bist du noch teurer von Geld.
Nofim sheine meidalach Yevol sheine men mich Nofim ze alle ois geklibben dich Bei mir bist du schön Bei mir hast du chen Bei mir bist du die schönste auf der Welt Es ist zu mir gekommen a Cousine Schön wie Gold sie gewend die Grine Bäckerlach wie Reute Pomeranzen Fieserlach was beten sich zum Tanzen Bäckerlach wie Reute Pomeranzen Fieserlach was beten sich zum Tanzen Heint das sich begegen mein Cousine Und ich frag sie wo je machst du Grine Entert sie mir mit der Krimme Mine Als am Aslof Kolumbus es Medine Entert sie mir mit der Krimme Mine Als am Aslof Kolumbus es Medine Oi, 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 Jossel, 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 Jossel Du schreies geht hier, also ist von dir Oi, 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 Jossel, 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 Jossel Sie holen jede Nacht nur von dir Oi, 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 Jossel, 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 Jossel Dein Malke sitzt nur und wart auf dir Sie holen jede Nacht und von dir Nur sie tracht, sie bängt und krapiert nur von dir Sie holen jede Nacht und von dir Nur sie tracht, sie bängt und krapiert nur von dir Wir sind zur Rebinu gegangen unterwegs Mit dem Muleb tun sie fjuchen und gießen nach Regen Schreit der Rebbe zu dich, Mare, herauf gießen Wasser Zinnen alle sie dem Trick nach Reus Der Rebbe ist ein Reus an Nase Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bom, 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 Bom Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bom, 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 Bom Chiri biri 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 bim bom bom Chiri biri 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 bim chiri bim bom 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 bom
Et voilà, c'est ici que j'achève cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous rappelle qu'elle est rediffusée le dimanche de 18 à 19h et que vous pouvez la retrouver quand vous le désirez en podcast. Dans quelques instants, place aux informations et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à Guide Shabbos, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.